au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mercredi 22 avril, bon, ça commence à se réchauffer un peu. On a 15 degrés actuellement au cœur de Lanaudière. Une belle journée. À l'émission aujourd'hui avec Pierre Paquette, on va parler de la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. On aura avec nous aussi le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau. On va parler de parcomètres intelligents, les fameux parcomètres électroniques comme on a dans le centre-ville de Joliette. Bon, on va les établir là, du côté de l'Assomption. Et aussi avec nous, Guillaume Tremblay, on parle de l'Union des municipalités du Québec qui accueille favorablement la composition de ce nouveau conseil des ministres du gouvernement de la CAQ. Et on estime du côté de l'Union des municipalités que la nomination de Samuel Poulain aux affaires municipales est une occasion de consolider une relation de travail fondée sur l'écoute, le dialogue et la collaboration. Et François Morin en discute avec le président de l'UMQ et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, qu'on devrait avoir, je crois qu'on l'avait... tout à l'heure. Est-ce qu'on a Guillaume Tremblay? Ça va très bien. Ça commence bien, cette émission-là. On ne retrouve plus Guillaume Tremblay. Super. Bon, on va y revenir. On va y aller tout de suite avec Sébastien Nadeau. Ouais, bon, ben, on aura l'occasion de revenir donc sur Mascouche. On s'en va du côté de l'Assomption maintenant. Le maire Sébastien Nadeau, c'est parce que je vous en parlais tout à l'heure de parcomètres, les parcomètres numériques qui seront en fonction cet automne à l'Assomption. Comme le précise le maire Nadeau à notre collègue Régent Turgeon, des enjeux de circulation et de stationnement sont au cœur de la ville et incitent l'administration municipale à se tourner là, vers de nouvelles technologies.
Effectivement, on a la richesse d'avoir beaucoup d'institutions scolaires. Chez nous, on a un beau collège, deux écoles secondaires, on a un grand cégep, on a aussi une université, un campus d'université. Donc, ça amène une belle clientèle de jour, une clientèle dont on est très fiers d'accueillir. Cependant, ça met énormément de pression sur le milieu urbain, sur la circulation et sur les stationnements. Donc, on avait le défi depuis 3 ans qu'on réfléchit à trouver des solutions pour justement comment améliorer notre offre. Et la solution qu'on a choisie, c'est d'implanter des parcomètres, non pas des parcomètres physiques, mais des parcomètres numériques que les gens vont pouvoir s'enregistrer, courir un petit frais, très, très abordable. On s'est inspiré de d'autres villes là, partout où il y a des cégeps.
Donc, justement, comment ça va fonctionner, ces fameux parcomètres numériques? Et est-ce que ça va être convivial à l'usage?
Oui, c'est le modèle qu'on a choisi est exploité déjà dans d'autres villes. Là où c'est implanté, c'est apprécié par les citoyens. Donc, c'est ce qu'on veut regarder. C'est une application mobile, très simple, qui nous permet d'être très agiles. Donc, on va pouvoir offrir des 15 minutes gratuits pour les gens qui veulent aller chercher un café. On va pouvoir offrir des banques d'heures, exemple de 50 heures de gratuité pour nos citoyens chez nous à l'Assomption, pour favoriser encore qu'on continue à encourager nos commerces locaux. Donc, c'est toutes des choses qui sont mises en place. Puis l'application qu'on a prise est non seulement facile pour l'usager, mais elle nous rend très agile. Si, exemple, demain, on se dit on a un événement spécial puis on veut créer une gratuité toute la journée, bien, on va rendre gratuit tous les stationnements dans le temps de le dire.
Donc, on parle de zone tarifaire. Donc, ce ne sera pas les mêmes tarifs là où on va stationner.
Ben, dans le fond, c'est beaucoup dans le méandre, c'est ce qu'on dit. Il y a des secteurs, le secteur où c'est la concentration des commerces, le boulevard Lange-Gardien, là, ça va être des zones de 2 heures, mais tous les zones, c'est des heures illimitées. Sauf pour les citoyens, ils vont pouvoir se stationner dans leur rue en tout temps.
Là, ça fait déjà 4 consultations publiques que vous avez dans ce dossier-là. Sentez-vous que vous avez l'appui du public, de vos résidents?
Oui. Par contre, c'est un projet qui a besoin d'être expliqué. Tout le monde a l'impression de recevoir une nouvelle taxation. Il n'avait pas entendu parler de la gratuité pour le citoyen. Les gens ont l'impression qu'il allait avoir des parcomètres physiques, ça allait leur dire la ville, ça allait nuire au commerce. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça est pris en considération parce que c'est juste numérique, parce que c'est gratuit pour le citoyen avec une banque d'heures. Puis surtout que les revenus, ça ne va pas dans les coffres de la ville. Les revenus vont venir financer l'animation de notre centre-ville qui est magnifique, qui est historique. On a beaucoup d'activités. On veut augmenter ce nombre d'activités-là pour générer de l'achandage chez nos commerçants. Donc, on assure la pérennité de nos commerces. Puis, on va construire aussi des nouveaux stationnements, stationnements incitatifs avec des étagers. Ça fait que l'offre de stationnement va grandement s'améliorer. Puis ça, c'est comme ça, c'est l'application qui va venir le financer, non pas le citoyen.
On a senti quand même pas mal d'inquiétudes du côté des étudiants, justement, qui viennent déjà au centre-ville. qui ont été victimes de contraventions pour toutes sortes de raisons et à qui on va justement demander des frais de stationnement maintenant. Ils sont pas à l'aise, je pense, avec ça.
Ben, ils sont pas à l'aise et je les comprends. C'est un changement important pour eux. C'est pas les gens qui ont le meilleur contexte financier. Hein. On sont en début de vie. Sauf que là, à partir du moment qu'on fait le choix d'avoir un véhicule, ben il y a des frais qui sont relatifs à l'usage du véhicule. Nous, c'est on va donner des rabais sur le transport en commun. On va aussi favoriser l'autopartage. On va mettre des outils. On est en collaboration avec le Cégep. Mais à la fin de la journée, c'est si vous regardez toutes les villes, la majorité qui ont des Cégeps, à l'exception de un dans un à 100 km², normalement les Cégeps offrent des stationnements à leurs étudiants puis des stationnements qui sont payants. Ça fait que partout dans l'offre étudiante, dans l'offre des cégeps, les stationnements sont payants. Chez nous, c'est une pression qui tombait sur la ville, une pression financière. Ça fait que là, ce qu'on veut favoriser, c'est pas nécessairement l'étudiant, mais c'est l'usager. Ça fait qu'il y aura beaucoup d'étudiants qui vont être touchés par ça.
On vise un certain montant en termes de revenus, là, parce que ça va prendre une gestion derrière ces nouveaux parcomètres.
Oui, nos coûts d'opération sont très bons. On est très satisfaits de ça. Le frais d'administration relié à l'application. Nous, on pense être capable de redonner autour de 700 000 $ par année à l'organisme qui s'appelle Destination L'Assomption pour générer l'activité. Destination L'Assomption, c'est des commerçants du centre-ville. C'est des gens d'affaires de partout qui sont concentrés sur le tourisme dans la ville de L'Assomption. Donc, ça va être leur décision avec ces budgets-là. Puis l'autre partie va être gérer la construction des stations. C'est-à-dire qu'on, nous, on estime là, environ à 700 000 $ de revenus qui vont être dépensés là-dedans. Ça ne va pas dans les coffres de la ville. Ce n'est pas une nouvelle taxe. C'est vraiment pour améliorer l'expérience.
Bien, justement, améliorer l'expérience, ça va être aussi de sécuriser des commerçants. Là, parce que, vous l'avez dit tantôt, il y a des commerces qui sont peut-être à vendre, d'autres qui ont fermé. On a besoin de maintenir cette vitalité économique-là.
Vous avez raison. Le commerce de détail change énormément. Les gens, malheureusement, disons que c'est le changement. On achète de plus en plus en ligne. On fait livrer des choses chez nous. On achète de moins en moins local. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'à l'Assomption, on n'aura jamais de grande surface par notre aménagement urbain. Donc, nos grandes surfaces chez nous, c'est nos épiceries. Puis on n'a pas l'intention d'ajouter des grandes surfaces. Donc, l'offre de commerce de détail, il faut la changer, il faut l'améliorer. On s'en va vers des commerces de destination, des commerces d'expérience, où on va se sentir bien, comme on est en général à l'Assomption.
Et là, cette nouvelle tarification, ces nouveaux parcomètres, ça commence quand, là? Les gens qui vont venir de l'extérieur de l'Assomption vont s'attendre à des changements qui vont entrer en vigueur à partir de cet automne?
C'est ce qu'on souhaite. En fait, l'implantation, on aimerait qu'elle soit complétée au mois d'août. Ça, c'est l'objectif qu'on a, mais ça se peut qu'on déborde après la rentrée un petit peu.
Voilà, c'était le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau, avec qui Régent Turgeon a eu l'occasion de s'entretenir concernant ces nouveaux parcomètres, oui, au centre-ville de l'Assomption. On vous revient dans les prochaines minutes. On va parler des réactions de l'UMQ et du maire et président de l'UMQ, maire de Mascouche, Guillaume Tremblay.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Les orthèses plantaires. Efficace pour soulager plusieurs pathologies des pieds. Fabriquée sur mesure, elle s'adapte à votre style de vie et vos chaussures. Prenez rendez-vous pour un examen biomécanique. 450-398-PIED, 398-7433 ou podiatrejoliette.com.
La Chambre de commerce du Grand Joliette est heureuse de dévoiler les finalistes de la 40e édition du Gala Excelsior présenté par Desjardins en collaboration avec Promutuel Assurance Lanaudière. Dans la catégorie entreprise industrielle, manufacturière ou construction, les finalistes sont Construction Asselin et Frères, Groupe SSTM, Construction Julien Dalpé et Lewis Stabilisation. Dans la catégorie innovation et technologie, les finalistes sont les enseignes Amtech Signature et Moderno Construction. Félicitations à tous les finalistes. Les lauréats seront dévoilés le 8 mai prochain dans le cadre du Bal en Blanc au Centre culturel Desjardins.
Salut, c'est Gabriel de Les Trois Frères Équipement. Nous organisons une grande vente samedi le 2 mai. Sur toutes les unités de marque Style, obtenez 10 % de rabais sur le meilleur prix affiché. Ça veut dire que même sur la scie MS-162 de Style, déjà en solde à $219,99, vous obtenez un rabais de 10 % supplémentaire. Que ce soit pour l'entretien de votre terrain ou pour votre entreprise de paysagement, nous avons l'outil Style qui saura répondre à tous vos besoins. La meilleure journée pour économiser, c'est samedi le 2 mai chez Les Trois Frères Équipement au 217 rue Saint-Jacques, à Saint-Jacques. Les Trois Frères Équipement, le meilleur service dans la Naudière.
Saviez-vous que Promutuel est encore l'assureur grand public le plus recommandé?
Ben là, c'est vous qui faites la voix de Promutuel.
Oui. Vous les connaissez?
Mais hein, je les aime d'amour. J'ai eu un dégât d'eau à la maison. Mon sous-sol était foutu, mais ils m'ont réglé ça. Ils sont tellement efficaces.
Pas pour rien qu'on en parle autant. Bon, je finis mon message.
Ben oui.
Pour un service tellement efficace, choisissez vous aussi l'assureur qu'on aime recommander.
Sauce-père.
Des conditions s'appliquent. Promutuel Assurance et la 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 la.
Le biscuit sourire de Tim revient bientôt et chaque bouchée fait une vraie différence près de chez vous. Parce que 100% du produit de la vente va à plus de 600 organismes locaux et groupes communautaires. Achetez vos biscuits sourire chez Tim du 27 avril au 3 mai dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité. CFNG.
Lanaudière PM, affaires municipales.
Oui, on l'a. Guillaume Tremblay, c'est que l'Union des municipalités du Québec accueille quand même favorablement, oui, la composition de ce nouveau conseil des ministres du gouvernement de la CAQ. On estime d'ailleurs, du côté de l'UMQ, que la nomination de Samuel Poulain, qui est aux affaires municipales, c'est une occasion de consolider une relation de travail qui est fondée sur l'écoute, le dialogue, la collaboration. Et François Morin a eu l'occasion d'en discuter avec le président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay.
Guillaume Tremblay, titre de président de l'Union des municipalités du Québec, à la lecture du communiqué que l'organisation a émis, on est quand même relativement satisfait là, de la composition du nouveau Conseil des ministres.
Oui, écoutez, on accueille favorablement. J'ai eu la chance de discuter hier avec le nouveau ministre des Affaires municipales. On le sent motivé, comme jamais, à faire avancer le monde municipal. On a un nouveau ministre qui est en charge aussi des infrastructures, qui est aussi ministre des Finances. Donc, je pense que pour la suite des choses, ça va faire avancer les municipalités, j'en suis certain.
Évidemment, on s'entend qu'il y a un décompte qui est important pour le gouvernement qui est en place. On ne pourra pas tout changer dans l'espace de quelques mois.
Ah non, c'est clair que le temps est compté. Mais je pense que avec la volonté, il y a des choses qu'on va pouvoir faire rapidement en collaboration et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on ouvre nos bras, comme on dit, pour collaborer au maximum avec le gouvernement pour pouvoir faire avancer des dossiers communs, rapides, des petits coups de circuit qu'on pourrait faire collectivement ensemble.
Par exemple, deux ou trois dossiers là, pour rendre les choses claires pour les gens qui nous écoutent?
Ben écoutez, il y a des projets de loi qui pourraient être attelés, des projets de loi sur l'aménagement du territoire, diminuer des normes. Donc, tu sais, on s'entend, faut pas que ce soit du gros travail en commission parlementaire. Comme vous l'avez dit vous-même, le travail est vraiment compté. Mais soyez assurés là, qu'on va faire notre travail au niveau de l'UMQ. Je sais déjà que le personnel de l'UMQ est déjà en communication avec le personnel du ministère des Affaires municipales pour justement essayer d'évaluer et de regarder qu'est-ce qui pourrait être fait rapidement.
Et autre bonne nouvelle potentielle, en tout cas, c'est que le développement économique régional semble être revenu au sein des priorités du gouvernement. On a un ministre délégué maintenant.
On a un ministre délégué. Je pense que ça va faire du bien. Nos petites PME là, dans nos localités, ben, ça va donner justement un coup de main assez important. On a aussi un ministre aux régions, donc ça aussi, c'est intéressant. Ministre des régions, maintenant, c'est à savoir comment ça va fonctionner. On va suivre les choses la semaine prochaine pour comprendre. Ça va être des adjoints parlementaires, il manque encore des détails. Comment ça va être fait? Parce que le ministre régional, très souvent, aidait à régler des dossiers dans chacune des régions. Maintenant, on veut passer différemment. Maintenant, ça va être à l'usage qu'on va voir si c'est bon ou moins bon.
Et il y a également une nouvelle personne au ministère des Transports et il y a des dossiers prioritaires dans toutes les régions, notamment dans la Lanaudière, et il y a des choses qu'il va falloir qu'ils bougent, là, notamment, entre autres, au niveau du financement du transport collectif.
Tout à fait. Donc, le transport collectif, on attend encore, comme j'arrête pas de dire souvent, 2028-2029 vont être des grosses, grosses années. Difficile pour le monde municipal, pour les gens qui sont dans la communauté métropolitaine de Montréal, mais aussi pour les gens partout dans les régions du Québec. Il va falloir que le financement soit vraiment présent. On va laisser la chance au coureur, puis il y a une élection de toute façon provinciale qui s'en vient. On va pouvoir mettre nos enjeux prioritaires sur la table à dessin.
Et parmi ces enjeux-là, j'imagine qu'il y a encore les milliards qui dorment du côté d'Ottawa.
Ben ça, c'est clair que quand je vous dis des choses qui peuvent faire rapidement puis qui vont donner des marges de manœuvre, autant au gouvernement qu'au monde municipal, c'est un exemple d'aller chercher les sommes qui dorment à Ottawa.
Bref, d'ici la fin de l'automne, là, il va y avoir de l'action au niveau politique.
Il va y avoir de l'action, on se prépare.
Voilà, c'était le président de l'UMQ et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay. Il est 16h20. On a eu chaud en début de semaine du côté de New York à l'aéroport JFK. C'est que la presse canadienne nous a appris cet après-midi que l'administration fédérale de l'aviation américaine a signalé lundi un incident de quasi-collision qui impliquait un avion d'Air Canada à l'aéroport John F. Kennedy à New York. L'administration fédérale de l'aviation américaine a indiqué que les pilotes d'un vol de Republic Airways ont effectué une manœuvre d'évitement après que l'avion ait raté son approche prévue et s'est retrouvé trop près d'un avion d'Air Canada. Et le vol Air Canada Express en provenance de Toronto avait reçu, lui, l'autorisation d'atterrir sur une piste en parallèle. Et Air Canada Express a déclaré dans un courriel que l'équipage avait reçu une alerte et des instructions des contrôleurs aériens et qu'ils avaient à ce moment-là tout de suite pris des mesures nécessaires. On dit du côté d'Air Canada que la sécurité est la priorité absolue, puis les équipages sont parfaitement formés pour faire face à de nombreuses situations opérationnelles de ce genre-là. Et du côté de la FAA, on a indiqué que le vol de Republic Airways avait également reçu une alerte à bord et l'agence a précisé que ces informations-là étaient préliminaires et que l'enquête était en cours en ce moment. L'incident de lundi, ben, nous rappelle la mort de deux pilotes canadiens lors d'une collision. Ça s'était passé également du côté de New York. On peut se souvenir, c'était le mois passé. C'était un avion d'Air Canada qui avait frappé un camion de pompiers de l'aéroport de LaGuardia. Et les deux pilotes ont été identifiés comme étant Antoine Forêt et Mackenzie Gunther. Le Bureau national américain de la sécurité des transports qui enquête là, sur cette collision mortelle a déclaré que le camion avait reçu l'autorisation de traverser la piste de l'aéroport de LaGuardia à New York seulement 20 secondes avant l'accident. Donc, plus de peur que de mal pour ce qui est de cet incident là qui est survenu en début de semaine du côté de l'aéroport JFK à New York. Ailleurs dans l'actualité, la révision de la carte électorale du Québec pourra aller de l'avant. C'est que la Cour suprême a rejeté la demande des avocats du gouvernement de déclarer légale la loi qui visait à mettre le projet sur pause, le temps de trouver une solution pour mieux représenter les électeurs de région dont le poids démographique là, est en chute. 7 des 9 juges qui ont entendu la cause ce matin sont d'avis que les démarches du gouvernement de François Legault ne respectaient pas la Charte des libertés et la refonte de la carte électorale prévoit, entre autres, la disparition de 2 circonscriptions en Gaspésie. Vous pouvez comprendre que les Gaspésiens sont vraiment fâchés de cette situation. Ils perdent du poids, énormément de poids, donc, au niveau de la carte électorale. Et on parle de disparition aussi d'une circonscription, en fait, du côté de Montréal. Et l'ajout de 2 nouvelles circonscriptions en Estrie, centre du Québec et dans les Laurentides. Il y a la ville de Montréal qui demeure sur un pied d'alerte alors que le niveau de la rivière des Prairies continue d'augmenter et de menacer de nombreuses résidences. Le pire est pas encore passé, c'est ce qu'affirment d'ailleurs les autorités municipales du côté de Montréal. On écoute là-dessus un reportage de Philippe Bonneville.
Les spécialistes croyaient que les niveaux d'eau se stabiliseraient autour de Montréal en milieu de semaine, mais ce n'est pas tout à fait ce qui se passe, soutient la mairesse Soraya Martinez-Ferrada.
Ce qui est quand même assez étonnant, c'est que le débit d'eau a diminué, mais l'eau monte quand même.
C'est donc dire que les risques d'inondations importantes demeurent bien présents et que les citoyens dans les secteurs vulnérables ne peuvent pas pousser de soupirs de soulagement pour le moment. Jim Bass est responsable de la sécurité publique.
On est à peu près au même niveau où on était en 2017-2019. On verra la suite des choses, mais non, c'est pas derrière nous encore.
Les mesures mises en place par la ville pour contrer les inondations coûtent très cher et la mairesse demande de l'aide financière.
Ce travail d'investissement peut pas être porté uniquement par par les municipalités. Les municipalités vont avoir besoin d'aide de Québec.
Philippe Bonneville, Cogeco Nouvelles, Montréal.
Et par ailleurs, il y a la ville de Gatineau qui a évité le pire au cours de la fin de semaine face à cette crue des eaux, mais les autorités qui demeurent en ce moment sur le qui-vive face aux menaces d'inondation. La mairesse Maude Marquis-Bissonnette a fait le point aujourd'hui sur la situation qui demeure inquiétante. Il y a environ 500 résidences du côté de Gatineau et des bâtisses là, qui sont affectées par la situation, dont 300 résidences qui sont enclavées actuellement par l'eau. Les citoyens ne doivent pas hésiter, évidemment, à demander de l'aide. C'est ce qu'a souligné la mairesse.
Les gens qui veulent évacuer leur maison sont invités à contacter le 311 s'ils ont besoin d'être évacués de manière urgente. C'est évidemment le 911. Il y a le centre d'aide aux sinistrés qui est désormais ouvert entre midi et 20 heures au centre sportif de Gatineau. Sur place, il y a deux anges blancs. Ça, c'est des gens du CISO, en fait, qui sont là pour offrir de l'aide psychosociale. Puis il faut le dire, là, il y a toutes sortes d'histoires humaines derrière les inondations.
Sainte-Provinciale, maintenant, il y a le gouvernement, en fait, le nouveau vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur du gouvernement de Christine Fréchette, Yann Lafrenière, qui affirme vouloir faire adopter la loi sur la protection des femmes victimes de violences, et ce, avant la relâche estivale. Le projet actuel vise à donner aux femmes et aux antécédents, en fait, de leurs conjoints. Le ministre mise sur la collaboration des partis d'opposition pour accélérer le processus. Le projet de loi prévoit aussi la mise sur pied d'un registre public des délinquants sexuels à haut risque de récidive. On écoute le ministre Yann Lafrenière.
Ça demande beaucoup de travail, c'est évident. Ça va nous demander de travailler différemment avec les oppositions. Je suis persuadé que les oppositions veulent la même chose que nous. Ça fait qu'on va y arriver. Non, moi, j'ai vraiment confiance.
Voilà, il est 16h27. Les nouvelles s'en viennent.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour Charles de Gaulle, c'est un petit peu dense, le secteur du boulevard Saint-Jean-Baptiste, tricentenaire, mais quand même, on garde une bonne vitesse. Henri Bourassa, aussi, on est nombreux, là. Mais pour la suite des choses, ça va bien pour atteindre Charles de Gaulle et franchir la rivière des Prairies, Repentigny, la 40 direction est, on circule sans problème. Montée de l'Épiphanie, c'est quand même assez lourd entre la 40 et la rivière de l'Assomption. Le pont, le gardeur, accès facile, autant par Sherbrooke que par Notre-Dame 25 Nord, c'est dense depuis Henri Bourassa à Montréal et ce jusqu'à environ un kilomètre passé la jonction avec la 440 là, du côté de Laval. Secteur de l'île Saint-Jean, Terrebonne, Mascouche 25 Nord, ça va bien. Pont Sophie-Masson facile en ce moment et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40 en direction est un peu plus nombreux à partir de la montée des Pionniers. Direction ouest, c'est quand même pas si mal malgré que ce soit un petit peu dense à l'approche de la montée du Mai. Pierre Jubinville sera là dans un instant avec l'actualité.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Vous souffrez d'une fascite plantaire, d'un oignon, d'une verrue, d'une infection ou d'une fracture? Venez rencontrer mon équipe à la clinique podiatrique de Joliette au 222 de la Visitation à Saint-Charles-Bromé. Nous offrons une gamme complète de services podiatriques tels que soins des pieds, orthèse plantaire, injection de cortisone, chirurgie mineure, radiographie ainsi que la podiatrie sportive. Renseignez-vous au 450-398-PIED, 398-7433, podiatrejoliette.com.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Salut, c'est Gabriel de Les Trois Frères Équipement. Nous organisons une grande vente samedi le 2 mai. Sur toutes les unités de marque Style, obtenez 10 % de rabais sur le meilleur prix affiché. Ça veut dire que même sur la scie MS162 de Style, déjà en solde à 219,99, vous obtenez un rabais de 10 % supplémentaire. Que ce soit pour l'entretien de votre terrain ou pour votre entreprise de paysagement, nous avons l'outil Style qui saura répondre à tous vos besoins. La meilleure journée pour économiser, c'est samedi le 2 mai chez Les Trois Frères Équipement au 217 rue Saint-Jacques, à Saint-Jacques. Les Trois Frères Équipement, le meilleur service dans la Naudière.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Filgo, dépanneur voisin Polo dans le Carrefour du Moulin, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, épicerie Forêt, dépanneur voisin Joliette, dépanneur Super Sagami Pétro-Canada et pharmacie Nancy Gaudreau. À Saint-Charles-Borromée, dépanneur Couchetard, dépanneur Rapido, dépanneur Bonny-Soir-Chelles, dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor. À Notre-Dame-des-Prairies, dépanneur 350 voisin, dépanneur des Prairies, marché Philippe voisin et à Saint-Paul-de-Joliette, dépanneur Bonissoir, dépanneur Proxy Extra, dépanneur voisin. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
L'actualité de ce mercredi 22 avril en manchette aujourd'hui, le monde communautaire qui est déçu du nouveau gouvernement. Un immeuble de 12 étages complètement fait de bois à Terrebonne et Mark Carney qui n'est pas inquiet par l'attitude des Américains. Et tout d'abord, Pierre Jubinville, la reconduction de la ministre Rouleau déplaît.
Oui, déplaît au monde communautaire. On a l'impression de ne pas avoir été écouté de la part de Christine Fréchette. Les organisations avaient signifié il y a quelques semaines leur insatisfaction à l'égard de la ministre Chantal Rouleau.
En commission parlementaire, Chantal Rouleau avait servi une fin de non-recevoir des demandes de rehaussement significatif du financement à la mission. Hugo Valiquette est le directeur de la table régionale des organismes communautaires de la Naudière.
Il me semble que ça aurait été le bon geste à faire de dire, écoutez, on sait qu'il n'y a pas de communication avec la ministre, ça fonctionne pas, le lien de confiance est brisé, on tente avec une nouvelle personne responsable comme ministre de l'Action communautaire.
Le communautaire réclame maintenant la formation d'une table de négociation multipartite.
On l'a vu dans le passé, une ministre de l'Action communautaire pour la situation, ben ça donne pas de résultat au Conseil des ministres.
Si rien ne bouge, il faut s'attendre à ce que le mouvement Le communautaire à bout, qui a déferlé sur le Québec il y a quelques semaines, soit très actif dès le déclenchement de l'élection provinciale. François Morin, CFNJ Nouvelle.
Pierre, il y a le bois massif qui s'invite dans l'industrie de la construction.
Oui, et le plus haut complexe immobilier en bois sera construit à Terrebonne. Il s'agit de deux tours. D'abord, une première de 12 étages, un projet de 71 millions de dollars, qui est piloté par le Fonds de solidarité de la FTQ et qui devient donc le plus important projet locatif de la sorte au Québec. Et compte tenu de la hausse des coûts de construction, l'utilisation du bois massif semble tout indiqué pour le projet. Il permet de construire plus rapidement, sans l'utilisation de grues ou autres machineries coûteuses. Ce n'est pas le premier projet, cependant, au Québec, à utiliser le bois d'ingénierie. Trois immeubles de 8 étages ont été construits en bois en 2015 dans le quartier Griffintown à Montréal. Serge Cormier du Fonds de solidarité explique pourquoi le bois a par la suite été exclu des projets.
Puis, le dernier projet de grande hauteur qui a été fait au Québec s'appelait Origine, qui s'appelle Origine encore aujourd'hui, qui a été livré en 2017. Je pense qu'il s'est passé une pause où les promoteurs ont préféré continuer dans le traditionnel plutôt que se tourner vers... C'est quand même innovant, les structures de bois ici au Québec encore aujourd'hui. Et c'est probablement ce qui explique le délai qui s'est produit entre Origine, le projet Arborin qui a suivi, et nous, finalement.
Le Fonds de solidarité a choisi Terrebonne car le terrain du boulevard Lucile Teasdale lui appartient. Il est situé à proximité des axes routiers et de la gare de train. Il y aura une deuxième tour de 18 étages, aussi aménagée en bois massif.
Intéressant, j'aimerais savoir si c'est du bois lanaudois. Est-ce que c'est
de la pitoune de chez Chibougamau.
De chez Chibougamau, ah oui, bon. Le prix de l'essence qui baisse, mais l'engouement pour les véhicules électriques est toujours aussi élevé, Pierre.
Oui, on retrouve de l'essence ordinaire à 1,77 dans la Naudière, 1,72 dans la MRC de Montcalm. Mais la hausse du prix de l'essence ravive l'intérêt pour les véhicules électriques. Un sondage auto-hebdo a mesuré l'intérêt pour ce type de véhicule. On remarque une hausse de 38 % des ventes de véhicules électriques sur un an. Benoît Laforce, il est vice-président exécutif aux solutions véhicules neufs chez auto-hebdo.
Quand on a tenu le sondage, on a eu justement le retour des incitatifs et les éléments externes comme la guerre qui a commencé en Iran et on a vu le prix de l'essence à la pompe augmenter, ce qui a amené justement un regain d'intérêt justement des consommateurs cette année auprès des véhicules électriques. Quand on pense au Québec, on a vu une augmentation de 8 points et pratiquement 10 points d'un point de vue national.
Un courtier immobilier fautif écope d'une grosse amende.
Roger Fleury écope d'une amende de 20 000 $ et son droit de pratique est suspendu pour 3 mois. C'est le Journal de Montréal qui rapporte qu'il a empoché un profit de 52 000 $ en revendant rapidement une maison qu'il avait achetée à bas prix à des clients vulnérables. Fleury a reconnu sa culpabilité devant le comité de discipline et la décision est tombée le mois dernier. Il a faussement mis en vente une maison d'un couple âgé. L'offre de vente n'a jamais été diffusée sur Centris et il n'y a jamais eu de mise en marché également. La maison a finalement été achetée par une compagnie à numéro appartenant au courtier.
Ben oui.
Et la transaction a été conclue devant notaire pour 238 000 $.
De nouveaux parcomètres à l'Assomption.
Ouais, c'est confirmé. On va installer des parcomètres numériques à compter de l'automne. C'est difficile, l'Assomption, le jour, à cause des collèges et des restaurants. Tout est dans le... Je dirais dans le même secteur.
Ouais, dans le méandre.
Et comme l'a précisé le maire Sébastien Nadeau, des enjeux de circulation et de stationnement sont au cœur de la ville.
On a un beau collège, deux écoles secondaires, on a un grand cégep, on a aussi une université, un campus d'université. Donc, ça amène une belle clientèle de jour. Cependant, ça met énormément de pression sur le milieu urbain, sur la circulation et sur les stationnements. Donc, on avait le défi depuis 3 ans qu'on réfléchit à trouver des solutions pour justement comment améliorer notre offre. Et la solution qu'on a choisie, c'est d'implanter des parcomètres, non pas des parcomètres physiques, mais des parcomètres numériques que les gens vont pouvoir s'enregistrer, courir un petit frais, très, très abordable.
Bonne nouvelle, stabilisation du niveau des rivières dans la Naudière.
On ne rapporte pas d'inondation près des rivières Waro, Noire ou l'Assomption. On écoute Pierre Corbin d'Hydro-Météo qui fait le point.
Les niveaux d'eau sont toujours à la baisse dans le nord de la région de la Naudière pour les bassins versants des rivières Waro, l'Assomption et Noire. Ils sont plutôt stables du côté de Terrebonne sur la rivière des Mille-Îles. De ce côté, les baisses pourraient s'amorcer d'ici 48 heures. Elles seront généralement lentes pour les prochains jours.
Et ça, c'est une bonne nouvelle, Pierre, puisque je parlais de Montréal, là où on a encore beaucoup d'inquiétudes. Et si dans la Naudière, ça se stabilise, ben ça risque de se stabiliser là dans les prochains jours du côté de Montréal.
Absolument.
Les Américains intimident, mais Mark Carney ne s'en fait pas.
Bon, Mark Carney affirme qu'il est normal que les États-Unis réclament des concessions au Canada dans le cadre des négociations commerciales. Faut préciser qu'on parle de révision et non de la renégociation de l'accord en entier qui arrivera en 2036. Alors, selon des informations de Radio-Canada, l'administration de Donald Trump demanderait des concessions d'emblée au Canada, un genre de ticket pour pouvoir s'asseoir à la table des négociations. Mais Mark Carney, c'est très rassurant.
Il faut avoir une approche globale et nous avons une approche globale. On a du temps, on a du force, on a des options, on bâtit un Canada fort et on diversifie nos options.
Mais vous ne trouvez pas ça inacceptable que les États-Unis disent « mettez quelque chose sur la table »
Non, c'est une négociation. Tout est acceptable dans une négociation.
On aura d'ailleurs l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure avec Pierre Paquette. Éric Duhaime qui fait ses promesses aux anglophones.
Oui, il tente de se rapprocher de la communauté anglophone de Montréal et espère même faire des gains aux dépens des libéraux. S'il devient premier ministre, il promet de modifier la loi 96 sur la protection du français. On écoute Louis Lacroix.
Pour Éric Duhaime, les électeurs anglophones n'ont pas beaucoup d'alternatives au Québec.
Les anglophones devraient eux aussi avoir un choix et pas être obligés de se boucher le nez puis de voter pour les libéraux à toutes les élections.
Et pour être l'alternative aux libéraux, le Parti conservateur est prêt à modifier la loi 96 sur la protection du français.
On enlève les éléments qui rendent la vie plus misérable aux anglophones inutilement.
Mais ils gardent la loi, incluant l'utilisation de la clause dérogatoire.
Pour nous, on veut l'utiliser systématiquement. On veut revenir à la doctrine René Lévesque. C'est pas juste la loi 96. 96, c'est toutes les lois adoptées démocratiquement par l'Assemblée nationale du Québec.
Mais attention, ça ne fait pas d'Éric Duhaime un fédéraliste. Il compte même occuper le terrain laissé par la CAQ.
J'ai compris qu'ils ont abandonné le terrain de l'autonomie. Personnellement, je m'en réjouis parce que nous, on a l'intention de l'occuper.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Une école des paris sportifs inquiète, Pierre.
Oui, c'est un sujet délicat. On apprend que la popularité des paris sportifs chez les jeunes pousse plusieurs à vouloir en tirer profit. Dans la région de Montréal, il y a même une école qui offre une formation à 5 000 $ quand même, et fait miroiter de gros gains.
Es-tu sérieux?
On écoute Carl Marchand.
L'École des Paris se targue d'être la première en Amérique du Nord. Pour 5 000 $, on vous promet de développer des stratégies pour en faire une source de revenus. Sur Instagram, son cofondateur Olivier Jacques dit « On ne gamble pas, on investit ».
Philippe Lavoie, il a fait 4 437 % de croissance à l'École des Paris en seulement 3 mois.
Sylvia Kérouz, professeure spécialisée dans les dépendances à l'Université Concordia, se dit choquée par les prétentions de l'école.
Je pense que si on est informé, on a plus de chances de gagner. Alors, c'est faux.
Et les grands gagnants ne sont pas les clients, dit Valérie Van Mourick, travailleuse sociale et clinicienne, chercheure.
Les gens qui ont parti ça, mais moi, je pense qu'ils font plus d'argent avec leur formation puis avec le coaching. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de marketing.
L'École des Paris dit ne garantir aucun gain et ne pas offrir de conseils financiers. L'Auto-Québec n'a pas voulu nous accorder d'entrevue. La Société d'État indique néanmoins que l'école va à l'encontre de tout ce qui est fait pour le jeu responsable. Ici, Carl Marchand, Cogeco Nouvelles, Montréal.
Très inquiétant. Et on termine, Pierre, sur la scène internationale, le jeu de chat et de la souris là qui se poursuit au Moyen-Orient.
Oui, Claude, on ne sait pas trop finalement ce qui se passe ou ce qui se passera. L'Iran a saisi 2 navires dans le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, le climat ne semble pas être à la négociation. Pourtant, le Pakistan se dit prêt à agir comme médiateur et faciliter la tenue de discussions. L'Iran indique vouloir négocier, mais à la condition que les États-Unis lèvent le blocus.
Ben merci beaucoup, Pierre Paquette. Il est 16h41. Dans les prochaines minutes, on va parler avec Pierre Paquette. Ce sera question de la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustré, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Youhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Mettez-nous au défi, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant de la Sentra S 2026 en location 60 mois à partir de seulement $79 plus taxes par semaine sans aucun comptant initial. Chez Joliette Nissan.
La Chambre de commerce du Grand Joliette est heureuse de dévoiler les finalistes de la 40e édition du Gala Excelsior présenté par Desjardins en collaboration avec Promutuel Assurance Lanaudière. Dans la catégorie entreprise industrielle, manufacturière ou construction, les finalistes sont Construction Asselin et Frères, Groupe SSTM, Construction Julien Dalpé et Lewis Stabilisation. Dans la catégorie innovation et technologie, les finalistes sont Les Enseignes Amtech Signature et Moderno Construction. Félicitations à tous les finalistes. Les lauréats seront dévoilés le 8 mai prochain dans le cadre du Bal en Blanc au Centre culturel Desjardins.
Amateurs de burgers, venez déguster le savoureux burger Angus fromage et bacon de Harvey's. Fait de bœuf Angus de première qualité, cuit sur le grill et garni à votre goût. Rendez-vous dès maintenant au Harvey's de Berthierville, Mascouche et Notre-Dame-des-Prairies.
Au concert du dimanche à CFNJ, Jacques Dutronc.
Le monde!
Le concert du dimanche, dimanche matin, 7h à CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut Pierre!
Oui, bonjour.
On va parler de la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. C'est pas une renégociation parce que, bon, la CEUM va venir à échéance en 2036. Alors, on parle plutôt là, d'une révision.
Oui, exactement. Puis une révision sur une révision qui avait été faite par, justement, le président Trump avec en 2018. Il avait signé une révision de la CEUM, là. Il avait rajouté des règles d'origine pour l'automobile, un salaire minimum dans l'industrie de l'automobile. Ça, c'était surtout pour les Mexicains. Alors, donc, là, on nous annonce qu'il y a déjà des préconditions à la négociation touchant la remise des bouteilles d'alcool américain sur les tablettes canadiennes, la question de la gestion de l'offre, et puis la langue, évidemment, va peut-être faire partie du package, parce que évidemment il y a des obligations en français au Canada et qui n'existent pas évidemment aux États-Unis ni au Mexique, mais donc tout ça augure mal, mais en même temps je pense que c'est comme d'habitude là, avec Trump, c'est comme maintenant l'expression bien connue de taco là, Trump always chicken out, alors il fait juste monter les enchères pour mieux les descendre après, mais il faut que le gouvernement canadien se tienne.
On sait qu'il change d'idée comme il change de chemise, il taxe pas, il remonte les taxes, il rebaisse les taxes, et là, on rapportait ce matin que les États-Unis là, demandent l'équivalent d'un prix d'entrée, imaginez-vous, au gouvernement Carney pour lui permettre de négocier et de conclure un pacte dans cette révision de la CEUM. Et le ministre du Commerce du Canada, Canada-États-Unis, le ministre du Commerce, Dominique Leblanc, qui a déclaré là, dans une conférence ce matin que le Canada avait déjà fait plusieurs concessions aux Américains, notamment concernant les trucs comme Netflix. On a éliminé la taxe sur les services numériques, puis on a... Imagine, moi, c'est ça qui m'a fait sursauter. Oui, on élimine la taxe, mais là, on a même remboursé à Netflix qui avait déjà payé en taxe.
Oui, alors c'est ça. Ça, c'est une taxe qu'avait mis en place le gouvernement de Justin Trudeau, des libéraux. Et bon, une des premières concessions qu'a faite M. Carney, ça a été de l'abolir, mais non seulement de l'abolir, mais de rembourser aussi les sommes qui avaient été prélevées auprès de Netflix, Google, les grands là de ce qu'on appelle GAFA.
Ouais.
Et donc ça, c'est une concession majeure qui a été faite dès le début par le gouvernement libéral, par M. Carney.
Mais moi, ce qui me jette à terre...
Qui ont été abandonnés.
Oui, mais c'est ça, Pierre. Ce qui me jette à terre, c'est de savoir qu'on les a même remboursés. Et là, moi, je pense à nos médias canadiens, nos plateformes canadiennes qui en arrachent face à ces gros monstres, ces GAFAM-là. Puis là, ben, non seulement on les aide pas, mais on rembourse, on en redonne aux Américains.
Ben, exactement. Alors, bon, c'est là où M. Carney dit on a déjà payé le prix d'entrée pour la négociation, mais ça sera pas suffisant, là, au moins au niveau du discours avec les Américains. Et je pense que le plus simple pour le Canada, c'est de faire traîner les négociations jusqu'aux élections de mi-mandat. À la mi-novembre, on va avoir des élections aux États-Unis et tout laisse à penser que Trump va être énormément affaibli, les républicains vont être énormément affaiblis. Et ça, je pense, c'est le... comment je pourrais dire ça un peu?
Un pouvoir de négociation pour le Canada.
Un pouvoir de négociation pour le Canada, parce que plus on attend, plus ça nous avantage, d'autant plus que, comme tu mentionnais, c'est pas l'accord comme tel, c'est une révision de l'accord, c'est de le mettre un peu au goût du jour. Et dans ce sens-là, je pense pas que les gens s'attendent réellement à une redéfinition complète. Il y a les Mexicains aussi, ça je trouve qu'on joue peut-être pas assez la carte du Mexique, qui pourraient être des alliés importants dans la renégociation.
Ah, certainement, oui.
Et ça, je trouve que M. Carney, il met pas beaucoup de poids là-dedans. Mais je pense qu'on a plusieurs cartes dans notre jeu. Mais ceci dit, il faut pas s'attendre à des cadeaux du côté des Américains.
Ah non, non.
Peu importe que ce soit les républicains ou les démocrates, ils ont toujours été extrêmement protectionnistes.
Et ce qui embête aussi les Américains, c'est le fait qu'on refuse au Canada de vendre des spiritueux américains. Et ça, vraiment, ils sont pas contents. Puis je pense à des entreprises comme
Jack Daniel
qui a vu ses profits fondre quand même. C'est un marché important pour Jack Daniel, le Canada. Et je pense aussi à une entreprise américaine de spiritueux qui s'appelle Sourpuss, qui, elle, a décidé de venir s'établir à Montréal, d'embouteiller, de produire et d'embouteiller à Montréal, façon de contourner le blocus du Canada envers les États-Unis, là.
Et c'est exactement le contraire de ce que Trump voulait, parce que lui, justement, en mettant des droits de douane, et puis il voulait que les investissements reviennent aux États-Unis. Puis là, il semble qu'il y a beaucoup d'entreprises, bon, dans le cas de l'alcool, c'est un fait, mais dans d'autres secteurs, qui se déplacent vers les pays clients pour justement éviter les droits de douane américains. Alors, je pense que ça va être assez intéressant à suivre au cours des prochains mois.
Là-dessus, et Trump s'est fait avoir dans son propre jeu, là.
Ben exactement. J'espère juste que le gouvernement canadien va avoir un peu de colonne vertébrale, parce que jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est beaucoup de concessions et peu de résultats là en termes de négociations. Et je pense qu'il faut être assez dur avec eux. On l'a vu avec le conflit en Iran. Là, c'est évidemment pas du même ordre, mais quand on se tient debout, on obtient des choses. Et encore une fois, l'échéance des élections à la mi-novembre pour Trump, c'est une épée de Damoclès, parce que là, actuellement, les sondages montrent que 60% des Américains désapprouvent sa gestion des États-Unis. Ça fait en sorte qu'il y aura probablement plusieurs représentants américains au Congrès et au Sénat qui risquent de perdre leurs élections. Puis eux, la première chose qu'ils ont en tête, c'est leur réélection. Alors, ils vont faire pression sur Trump. Et je pense qu'il faut que le Canada joue habilement ses cartes.
Il y a beaucoup des alliés de Trump qui sont virés contre lui complètement. Là, donc,
oui, puis il y a des alliés du Canada aussi dans ces négociations-là. On l'a vu, là, justement, une représentante américaine qui a attaqué le secrétaire d'État Lutnick en disant que c'est à cause de lui que les Canadiens boycottaient les États-Unis et que le tourisme américain allait mal. Donc, du côté américain aussi, il y a des gens qui comprennent très bien que si on n'arrive pas à s'entendre avec les Canadiens, il va y avoir des pertes au plan économique qui se rajoutent à celles qui sont provoquées par la guerre en Iran actuellement. Alors, moi, je pense que le Canada a le gros bout du bâton pour une fois.
Merci, Pierre Paquette. On se reparle demain.
Oui, on se reparle demain exceptionnellement.
Voilà, merci d'avoir été là pour cette édition de L'Anneau d'hier PM. Je salue nos collaborateurs François Morin, Pierre Jubinville, Régent Turgeon ainsi que Pierre Paquette. Ici Claude Fournel, passez une excellente soirée. Nicolas Bellemare s'amène dans les prochaines minutes pour vous présenter le 5 à 7 trad de CFNJ. Nous, on est là demain, 16h, pour une autre édition de L'Anneau d'hier PM. Salut, bonne soirée!